It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, on est avec Nora Loreto, écrivaine, journaliste, militante et, faut bien sûr le mentionner, une grande vétérante de Canada Land sur nos multiples émissions. Bonjour Nora, ça va bien?
Bonjour, ça va bien. Un peu chaud.
Un peu chaud aujourd'hui, oui, effectivement. C'est juillet, c'est la canicule, c'est les changements climatiques, on vit avec.
Exact.
Ça fait vraiment plaisir que tu sois là cette semaine. Ensemble, on va faire d'abord le point sur la crise du logement qui ne s'éteint pas et surtout continue à monter, particulièrement avec la réforme proposée par le gouvernement de François Legault qui veut stopper les transferts de bail un peu partout au Québec. Et dans un deuxième temps, on va parler de tout ce qui se passe en France en ce moment, la crise sociale et politique qui est là-bas. Comment est-ce que les médias français couvrent le meurtre de Naël par un policier à Nanterre et le soulèvement qui s'ensuit? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec ça et la conversation sur la violence policière au Québec? Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français.
Alors que la crise du logement s'aggrave, François Legault tente de se faire rassurant.
Je suis rendu que j'ai 4 premiers juillet d'expérience et ça s'est bien passé pendant ces 4 premiers juillet-là. Quand je dis « ça s'est bien passé », c'est qu'il n'y a personne qui s'est retrouvé à la rue.
Une déclaration qui fait bondir les groupes de défense des locataires.
De dire, par exemple, qu'il n'y a pas nécessairement personne à la rue, premièrement, c'est faux. Deuxièmement, il y a aussi énormément d'itinérances cachées.
Selon le premier ministre, la hausse des prix de l'immobilier et des loyers découle d'une situation économique plutôt enviable.
Moi, je souhaite qu'on joigne non seulement l'Ontario, mais aussi le reste du Canada, les États-Unis. À un moment donné, je souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde un prix des maisons plus bas que Toronto ou Vancouver.
Alors, pour les gens qui ne savent pas, parce que, bon, il y a des gens de partout au Canada qui nous écoutent, le 1er juillet, bon, c'est pas que c'est pas la fête du Canada, mais c'est que c'est surtout la journée du déménagement au Québec. Tous les baux locatifs, à peu près, là, finissent le 30 juin. Le 1er juillet, c'est le chaos partout à Montréal. Il y a des cochonneries sur le bord du trottoir. Les gens déménagent tous en même temps. Et dans un contexte de crise du logement, c'est sûr que cette période-ci de l'année, fin juin, début juillet, les gens surveillent. Est-ce que tout le monde a réussi à se loger? Est-ce que les baux ont augmenté? Les loyers ont augmenté encore? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et le gouvernement de François Legault et sa ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, ont mis sur la table le projet de loi 31, dont le but est notamment de réformer un ensemble de choses dans le droit du logement au Québec. Mais la mesure qui a le plus retenu l'attention, c'est qu'on veut désormais permettre aux propriétaires de refuser une cession de bail sans motif sérieux. Donc avant, si moi je partais de mon appartement, je cédais mon bail à quelqu'un, à moins que le propriétaire puisse démontrer que cette personne-là avait déjà un historique d'être incapable de payer son loyer, par exemple, ou quelque chose de très, très sérieux et démontrable, le propriétaire n'avait pas le choix d'accepter cette nouvelle personne-là et donc de laisser cette personne-là me reprendre mon bail au même prix. C'est un outil qui a beaucoup servi à limiter la hausse des loyers au Québec. On peut dire peut-être, que c'est un des facteurs qui a contribué à ce que les loyers au Québec soient un peu moins chers que dans le reste du pays en moyenne. Et là, on s'attaque à ça, ça crée nécessairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions.
Il faut interdire les évictions, il faut rendre obligatoire le contrôle des loyers, il faut faciliter la cession de bail entre locataires, il faut aussi investir.
Notre objectif actuellement, c'est de développer le plus de logements abordables possible. Donc, c'est ce que France-Hélène essaie de faire. Elle a déposé un projet de loi qui amène un équilibre entre les propriétaires et les locataires, parce que l'objectif aussi, c'est qu'il y ait plus de propriétaires qui aient le goût de construire.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit constater sur le terrain que la situation se dégrade d'année en année.
Combien de ménages décident de rester dans un logement insalubre parce qu'il n'y a pas d'autre option? Combien de gens vont être dans un logement trop petit pour eux, mais ils disent hey, « si je trouve pas, je suis à la rue avec mes enfants. » C'est ça, la réalité.
Révolution! Les proprios nous font la guerre! Les proprios nous font la guerre! Révolution!
Toi, Nora, tu es basée à Québec.
Mm-hmm.
Comment est-ce que tu vois sur le terrain? Tu es beaucoup dans les milieux, nécessairement aussi des gens qui font de l'organisation communautaire à Québec. Comment est-ce que tu vois toute cette crise-là qui a été soulevée par la proposition de réforme du logement à Québec?
Mm-hmm. Bien, il n'y a aucune question qu'on vit dans une situation de crise de logement en général. La ville de Québec, on a un méchant problème avec des Airbnb parce que ça prend beaucoup des appartements, mm-hmm. ça retire beaucoup des appartements de ce qui est disponible.
Je suppose surtout au centre-ville, là où c'est super cute pour les touristes et tout, là, les gens veulent venir s'installer dans la Nouvelle-France, c'est ça?
Ben c'est ça. Ben moi, ma voisine, suite à côté de nous, il peut avoir un Airbnb qui gagne genre 80, 100, 120 piastres par nuit, et c'est un appartement en sous-sol. Donc pour louer en complète, ça c'est difficile, j'imagine, pour lui de trouver quelqu'un à 1000 piastres pour cet appartement. Donc c'est rentable pour les propriétaires de faire des Airbnb. Et avec la proposition de changement de loi, c'est certain que ça va empirer la situation. À Québec, on est chanceux dans un certain sens qu'on n'a pas vécu la même crise importante qui a affecté les grands et les petites villes dans le reste du Canada. Je pense des villes comme London ou Waterloo, des villes en Ontario qui sont grands, mais sans pas Toronto, Mississauga ou Ottawa, mais où c'est impossible de trouver les logements et le prix a explosé. C'est incroyable combien ça coûte pour les logements. Donc, à Québec, on est un peu, c'est spécial, mais avec la réforme, si ça va passer, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif sur le marché et surtout sur les locataires.
Non, c'est sûr. Quand on regarde les chiffres, il y a quand même un 40 % de la population au Québec qui est locataire.
Mm-hmm.
C'est beaucoup plus que l'imaginaire collectif qu'on se dit, ou en tout cas, moi, j'ai l'impression souvent qu'on se dit, quand t'es locataire, c'est pour quand t'es jeune, puis après ça, tu vas t'acheter une maison, là, ce qui est comme souvent ce qui est dit dans les cercles qui sont comme déconnectés probablement des réalités de classe, des inégalités économiques, puis de juste la complexité de la société en général. Mais ça reste quelque chose qu'on entend beaucoup. Donc, je pense déjà, c'est important de nommer, ça touche 40 % de la population, cette réforme-là de loyer qui enlève essentiellement des droits aux personnes locataires. C'est vraiment fascinant de voir, et je pense que c'est probablement la même chose, je sais pas si tu observes dans le reste du pays, à quel point, même lorsqu'il est question de réformes politiques comme celle-là, c'est comme si on parle souvent au Canada, et Justin Trudeau l'a beaucoup fait dans les dernières années, comme si tout le monde était soit propriétaire, soit aspirant, mm-hmm. propriétaire en attente.
Oui.
Et moi, je trouve que ça crée une conversation politique sur la question de la crise du logement, ou même de la hausse des prix des maisons, comme si essentiellement, on ne peut pas avoir une conversation politique sur les droits des locataires si on fait semblant que, dans le fond, si tu es locataire, c'est parce que tu n'as pas réussi quelque chose dans ta vie, mais dans le fond, s'il y a un problème avec tes droits comme locataire, la solution, c'est d'arrêter d'être locataire en travaillant fort et en te relevant les manches, essentiellement.
Oui. Non, c'est ça. Ce que je trouve le plus frustrant dans ces conversations, c'est que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont contents de rester comme locataire pour toute leur vie. Mm-hmm. Parce que comme locataire, il y a moins de responsabilités pour faire les réparations majeures de ton bâtiment. Il y a beaucoup de gains pour être locataire. Mais s'il y a toujours la possibilité que ton propriétaire te mette dans la rue, vend dans ton appartement, c'est sûr qu'il y aura un besoin pour beaucoup de monde de chercher plus de stabilité en trouvant une place de vivre comme propriétaire. Moi, je pense à des personnes que je connais à Toronto qui avaient des très belles appartements qui, cette semaine, ont trouvé que leur propriétaire a vendu leur appartement. Donc, ça, avec une famille, d'un enfant, de personnes en couple, ça a bouleversé tout, ça change tout. Ça veut dire que l'enfant ne peut pas être nécessairement à la même école. Il faut que vous trouviez un autre quartier à vivre qui est dérangeant, qui n'est pas facile, surtout quand le pourcentage des appartements disponibles est bas. Donc, ça bouleverse les vies des personnes. Donc, c'est normal que du monde veut avoir la sécurité qui vient avec être propriétaire. Mais c'est pas intelligente, une façon intelligente de gérer la société non plus, parce que il y aura toujours des personnes qui vont être locataires pendant toute leur vie. C'est pas une question de c'est juste des jeunes nécessairement. Mais je pense qu'aussi au Québec, il y a plus une culture qui est ouverte à d'être locataire pendant toute la vie. Je pense que dans le reste du Canada, c'est vraiment, vraiment, vraiment un échec dans ta vie si t'arrives à 40 ans et t'as pas une hypothèque au-dessus de ta tête.
Ah ouais, hein? Mais c'est pour comment t'expliques ça?
Mais je pense que c'est un peu le lien avec l'Europe, avec la France, où c'est plus normal, là, d'être aussi locataire. Mais je pense que c'est aussi qu'il y a beaucoup plus des coopératives dans la province.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de coop ici. Oui,
ouais, c'est plus facile d'obtenir une hypothèque d'une coopérative avec Desjardins, par exemple. Moi, j'ai parlé sur Twitter des coopératives et quelqu'un a répondu à Nouvelle-Écosse en disant que c'est la même chose que les logements publics, c'est la même chose que les HLM. Et j'ai dit non, une coop, c'est pas ça.
Non, ça n'a rien à voir.
Ça, c'est juste du monde qui est ensemble, qui achète une hypothèque ensemble. Et je vois ça à Québec, les locations, les taux, les prix qu'on paye, c'est bas. Je pense qu'à cause aussi qu'il y a des interventions dans le marché comme les coopératives.
Non, c'est sûr que si on regarde par rapport au reste du pays, on a de l'air un peu de se plaindre la bouche pleine, mais je veux que les gens comprennent, là, il y a une crise du logement au Québec. C'est peut-être pas au point de Vancouver, mais on n'est certainement pas sur la bonne direction. Puis je veux revenir aussi sur quelque chose que tu as mentionné avec la rareté des logements. Ce qui se passe aussi, c'est le profilage social qui est devenu absolument sans honte, ou au sens où ce que tu dis là, qu'on veut avoir la maison ou le condo du moment qu'on a des enfants, c'est aussi parce que du moment qu'on a des enfants en bas âge, il y a tellement de propriétaires qui ne veulent pas louer. Là. Du moment que les gens sont en train de se bousculer aux portes du seul logement disponible, c'est sûr que la personne que le propriétaire va choisir, ça va être le petit couple de jeunes professionnels non fumeurs sans enfants. Mm-hmm. C'est sûr. Mm-hmm. C'est sûr. Donc, être locataire en ce moment avec des enfants en bas âge, essayer de se trouver un loyer. Dans le fait, il y a une grosse différence entre le parc locatif qui est disponible en théorie et en pratique, qui va accepter de te louer. Et c'est de la discrimination pure et simple, mais complètement, complètement normalisée à ce stade-ci.
Oui. Effectivement. Et aussi, si on pense des personnes qui ont besoin des appartements accessibles ou avec des modifications pour accommoder une fauteuil roulante ou des autres modifications importantes.
Non, c'est le chaos aussi, là, tout à fait.
C'est le chaos. Et si on pense d'une ville, plusieurs villes au Québec où trouver un appartement au rez-de-chaussée, c'est pas facile parce que il y a plus du monde qui veut un appartement au rez-de-chaussée. Encore là, on crée les discriminations dans nos systèmes des appartements. Et tous ces changements au niveau des baux, ça crée une crise qu'on sait où ça nous mène dans les prochaines années. T'sais. On n'est pas Vancouver, mais on peut très bien être Vancouver dans 5 ans, dans 8 ans, tu sais, même plus vite, parce qu'il y avait des changements importants qui ont passé pendant la pandémie.
Tout à fait. Et d'ailleurs, là-dessus, une initiative que je veux souligner qui date de quand même un moment déjà, c'est The Maple, qui est un média, un nouveau média pan-canadien, qui a publié une base de données sur lequel tout le monde peut aller faire ses recherches. Mm. Find out if your MP is a landlord or invested in real estate. Et là, à partir de l'information qui est disponible avec les demandes d'accès à l'information et tout, on peut voir exactement tous les députés canadiens qui est propriétaire d'abord, mais qui est propriétaire d'un immeuble à logement, qui donc a des revenus de location. Et on voit à quel point parmi les libéraux, les conservateurs particulièrement, c'est une grande proportion là, des députés qui sont des propriétaires d'immeubles locatifs. Et le 27 juin dernier, donc, il y a aussi le Journal de Montréal qui a publié une enquête super intéressante qui va dans le même sens, parce que justement, le gouvernement Legault propose cette réforme-là du droit du logement. 28 des 31 ministres du gouvernement Legault sont propriétaires et là-dedans, beaucoup, beaucoup d'immeubles locatifs. Et il y a 13 des ministres qui ont des avoirs immobiliers qui dépassent largement le million de dollars. Et c'est vraiment des trucs... Il y a une époque, là, pas si lointaine que ça, on parle quand même juste le 19e siècle, où on ne pouvait pas se présenter en politique si on n'était pas propriétaire. C'était juste comme des personnes qui possèdent des terres. C'est un vieux restant aristocratique. Mmh. Là. Si tu ne possèdes pas des terres dans le système britannique, tu ne pouvais pas te présenter aux élections. Et là, j'ai l'impression que dans les faits, tout le monde peut se présenter aux élections, mais quand tu regardes qui vraiment est élu, qui nous dirige, c'est les proprios. Puis il y a comme nécessairement un conflit d'intérêts, avoir une classe dirigeante de proprios qui vote pour les droits des proprios. Mais c'est comme un peu tabou là, de dire que finalement, les députés votent dans leur propre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de leur intérêt de proprios, leur intérêt de locataires. Moi, je sais pas toi, mais moi, quand j'essaie de parler de cette question-là dans les médias, je me fais souvent dire « Ah oui, mais c'est des élus, ils travaillent comme tout le monde. » C'est comme si on veut pas nommer le conflit d'intérêts ou juste même la classe sociale auquel nos élus appartiennent.
Effectivement, c'est clair que toute la politique qui touche les locataires, s'ils sont faits par les politiciens qui ne sont pas locataires et ils sont encore pires, ils gagnent l'argent d'être propriétaires, c'est sûr que ça va jouer un rôle de empirer la situation pour les locataires, ça c'est clair. Et je pense que c'est un peu comme le visage caché des politiciens, parce qu'on ne parle pas beaucoup de où est l'argent des politiciens canadiens ou québécois. Et d'un côté, si on imagine que c'est une aspiration, que c'est normal que du monde soit propriétaire dans cette société, ça nous donne une excuse de ne pas parler de ça, parce que c'est pas la nouvelle, c'est normal qu'ils sont tous des propriétaires. Mmh,
mmh. C'est du monde qui ont réussi dans la vie, fait que ça va de soi. Ils investissent, c'est tout.
Ouais, ils sont sages. C'est ça. Mais si on revient aux statistiques que 40 % de la population sont des locataires, on peut clairement voir que les policiers ne sont pas dans la même... ils sont pas représentatifs du tout de la population. Et si on imaginait qu'un monde où on a des politiciens qui sont représentatifs de la population, c'est sûr que la politique va changer. Ça, c'est clair. C'est sûr que des mesures qui protègent les locataires seront plus fortes. Mais c'est pas comme ça comment la société est dirigée. C'est une société qui est dirigée par les riches, pour les riches. Et les locataires sont piégés dans cette difficile réalité.
Ça fait un peu penser quand le gouvernement allait après les gens qui auraient pu abuser, entre immenses guillemets, de la PCU pendant que l'évasion fiscale...
Exactement.
des gens qui ont vraiment de l'argent, c'est pas nécessairement la priorité. Mais parce que tu parles de Toronto, je voulais aussi te demander, on a entendu déjà Valérie Plante, la mairesse de Montréal, réagir à la proposition du droit du logement du gouvernement Legault. Puis il y a beaucoup de personnes, depuis l'élection d'Olivia Chow, qui ont essayé de faire des parallèles entre Valérie Plante et Olivia Chow. Est-ce que ça va être à peu près le même genre de politique qui vont être mis de l'avant? Est-ce que ça va être plus à gauche, plus à droite, plus ci, plus ça? Est-ce que toi, tu vois un espoir pour Toronto, surtout en matière de crise du logement, avec l'élection d'Olivia Chow?
Bien, c'est certain que Olivia Chow était la meilleure option entre les cinq qui a obtenu le plus des voix. Donc, elle a passé beaucoup de temps sur le conseil municipal et aussi élue comme députée néo-démocrate. mais c'est sûr que ses mains seront serrées dans le même sens que dans plusieurs façons, les mains sont serrées de Valérie Plante. Je pense que la grande question, c'est est-ce que Olivia Child va utiliser les pouvoirs grands, majeurs, strong, on dit en anglais, qui sont nouveaux. Les pouvoirs sont nouveaux de donner à la maire de Toronto pour faire des décisions sans le consentement ou sans un vote du conseil. Et pendant l'élection, Olivia Child disait qu'elle refusait d'utiliser ses pouvoirs si elle est élue. Mais maintenant qu'elle est élue, je pense que c'est très, très, très important pour elle de réévaluer cette décision parce que c'est un pouvoir qui est là. C'était fait par le gouvernement Ontario pour donner à John Tory plus de pouvoir. Et maintenant, c'est Olivia Child. Donc, elle a du pouvoir. Elle peut améliorer quelque chose. C'est certain que la ville de Toronto, il est lui-même propriétaire de beaucoup, beaucoup, beaucoup des logements sociaux. Donc, il peut améliorer ses logements sociaux. Il peut acheter des nouveaux appartements. Mais ça va être difficile pour elle parce que beaucoup des décisions, ça se passe par la province et pas au niveau municipal. Donc, c'est à suivre. Quand je dis, je pense que c'est vraiment la bonne nouvelle pour les locataires. C'est sûr que Olivia Chow, elle a une expérience. Elle a grandi dans la ville de Toronto. Elle connaît très, très, très bien la vie là. Mais est-ce qu'elle a poussé si loin que du monde de Toronto en besoin? Je pense que ça va être très, très, très difficile pour elle.
Mm-hmm, tout à fait. On va lui souhaiter bonne chance.
Oui, c'est ça.
C'est de voir, dans des cas comme ça, c'est surtout de savoir, premièrement, de qui tu t'entoures, mais est-ce qu'il y a une pression politique qui peut t'amener dans ce sens-là? Donc, si les gens à Toronto mettent une pression politique pour qu'on fasse certaines réformes, ça, c'est sûr que ça aide le pouvoir aussi à...
Oh oui, ça, c'est obligatoire.
À pousser des idées un peu plus radicales sans qu'il y ait un coût électoral à l'affaire.
Oui, exactement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que entre Anna Baleo, Mark Saunders et Anthony Fury, c'est trois personnes avec des politiques pas mal de droite. Il y a comme une droite centriste et extrême droite dans ces groupes-là. Et c'était les trois personnes qui ont récolté les plus de voix après Olivia. Ensemble, c'est plus de voix que Olivia a récolté. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins au niveau de la militantisme dans cette ville-là de pousser Chow à gauche et aussi de changer la culture chez des Torontois en général.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Nora, qu'est-ce que t'aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
Oh! Cette semaine, je veux parler de la grève de RTC, des chauffeurs d'autobus dans la ville de Québec.
RTC, Réseau de transport de la capitale.
Exact. On avait une grève qui a commencé lundi et ça se finit hier soir avec un vote de 88% en faveur d'une nouvelle entente. C'est sûr que c'était bien timé parce que le festival d'été, ça commence bientôt. On voit déjà des installations qui se fait, qui est mis partout au centre-ville. Et l'RTC...
Le festival d'été de Québec, c'est du sérieux, là.
C'est sérieux. L'RTC a des navettes, le 420, la navette de festival d'été, le 420. Et c'est plein à craquer, ces autobus pour les grands... pour chaque soir, il y a une grande chose sur les plaines. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça jouait un rôle dans cette négociation. Et c'est dommage que les chauffeurs aient dû faire la grève pour être entendus par la ville. Mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Je pense que je veux aussi noter quelque chose de très intéressant. Pendant la grève, ce qu'on a vu dans la ville, c'était une explosion des vélos.
Ah oui, hein?
Ça fait 11 ans que j'habite à Québec. Et j'ai jamais vu autant de vélos entre le centre-ville et l'Université Laval. C'est malade. Je pense que dans quelques axes, les véloistes sont plus nombreux que les autos, comme par 3 ou 4 à 1.
Non, c'est vraiment pas habituel, ça, à Québec.
Non!
Les gens qui comprennent pas la culture, là, la ville de Québec et la voiture, c'est un mariage de passionné, là.
Exactement. C'est très surprenant et intéressant. Donc, on avait la grève de RTC, on avait une explosion d'utilisation des vélos et le travail pour le tramway a commencé dans plusieurs rues dans la haute ville et dans l'extrémité du réseau. Et une nouvelle piste cyclable sera installée tout au long du chemin Sainte-Foy dans la haute ville. Donc, c'est surprenant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très, très, très local à Québec. Donc, désolé pour des auditeurs à Vancouver et Calgary, mais bon, voilà.
Non, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde parce qu'en fait, ça montre à quel point tu peux prendre une ville, une culture voiture, 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 puis faire de quoi avec pareil.
Exact.
Et je pense que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, peu importe où vous vous situez, je pense que ce qui se passe à Québec, et là, ça a été une grosse bataille politique, hein, avec le tramway et tout, là. Ça a été intense. Donc, non, je pense que merci d'amener ça à notre attention. Souvent, les gens cherchent des success stories. Là. Je pense que ça, ce qui est en train de se passer en ce moment, je pense que c'est peut-être un bon indicateur de ça. Bien noté, Nora.
Merci. Emily, qu'est-ce que toi, tu as gardé en tête cette semaine?
Écoute, toutes les choses qu'on a comme pris pour acquises durant peut-être comme les 10 dernières années en termes de notre manière d'utiliser Internet est en train de changer. En fait, c'est vraiment une grosse semaine avec l'adoption du projet de loi C-18. Là. Donc maintenant, on ne sait plus, ou du moins pour l'instant, Google et Meta, donc qui est propriétaire de Facebook, Instagram, a annoncé qu'ils ne publieraient plus les nouvelles des médias canadiens lorsque le projet de loi va entrer en vigueur, donc à la fin de l'année. Pour l'instant, les gouvernements du Canada et aussi certaines provinces répliquent en enlevant leur publicité, notamment de Facebook et de Google. C'est un peu la guerre ouverte entre le gouvernement et les médias sociaux. Et là, pendant ce temps-là, il y avait Twitter qui était en train d'imploser, on sait, depuis quelques semaines, quelques mois. Et là, on enregistre... Donc, mercredi soir, Mark Zuckerberg a lancé Threads, qui est essentiellement un copier-coller de Twitter, mais opéré par Instagram. À partir de votre compte Instagram, vous créez un compte Threads. Donc, essentiellement un Twitter, mais avec la crowd d'Instagram. Et là, ça aussi, c'est un game-changer complet. Dans les premières heures qui ont suivi l'ouverture de la plateforme, il y avait déjà une implosion du nombre de personnes qui se sont joints. Donc, essentiellement, tout notre univers des médias sociaux, la relation avec les médias traditionnels et tout, on est dans la semaine où tout est en train de bouger. L'Internet est en train de changer et c'est la guerre ouverte, le gouvernement d'un côté, Google, Meta de l'autre, et aussi Elon Musk d'un côté, Mark Zuckerberg de l'autre. On attend leur combat, leur ultimate combat là, qui va s'en venir peut-être éventuellement. Ils se sont mis d'accord pour se battre dans la boîte essentiellement. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est beaucoup, là.
Oui, ouais, c'est beaucoup. Comme quelqu'un qui a vraiment besoin de ces plateformes pour partager mon travail, partager mes idées,
ouais.
Ça m'inquiète, c'est sûr. C'est drôle parce que...
C'est beaucoup de changements.
Il y a beaucoup de changements. Il y a 2 semaines, je me suis dit, « Hey, Twitter est pas mal normal. » Finalement, oui, on a perdu beaucoup de monde. Mais il y a 2 semaines, j'ai pensé ça. Mais ça rapidement n'était pas normal avec tout ce qui se passait la dernière fin de semaine où c'était impossible d'utiliser Twitter plus qu'en voyant 300 tweets, genre. Mais oui, on a Threads. J'ai aucune intention d'embarquer là-dedans. Je suis déjà pas sur Instagram, donc j'ai aucune raison d'essayer ou expérimenter avec ça. Mais ce que je trouve le plus frustrant dans toutes ces discussions, c'est que le gouvernement fédéral n'a jamais eu la discussion ou l'intention ou les plans de créer quelque chose public. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Si on pense du l'ère où la société Radio-Canada était fondée, c'était la naissance de communication en masse, la naissance de radio, la naissance de télévision, et l'État a dit on a besoin d'une société d'État pour avoir les stations radio, les stations de télévision dans le marché. Et maintenant, on est là, 80 ans plus tard, même plus, et la Société Radio-Canada sera probablement une des dernières organisations médias qui restent avec tous les congédiés qu'on a vus avec des grandes compagnies comme Bell et les autres. Donc, pour moi, la grande question, c'est quand est-ce que le gouvernement canadien va créer quelque chose, soit une web browser, soit une feed avec des nouvelles canadiennes, soit peut-être un réseau social, je ne sais pas, et gérer dans la même façon de Radio-Canada, indépendamment. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font des conneries comme on voit avec la loi C-18? Ben, c'est parce qu'ils veulent pas bousculer le statu quo. Le statu quo est dominé par les grands multinationales qui gagnent beaucoup d'argent. Et le gouvernement fédéral a déclaré une guerre contre eux, mais en exigeant qu'ils paient l'argent pour partager les liens des nouvelles du Canada. Ce que j'ai vu ce matin, c'est que Meta et Google vont définir une nouvelle canadienne la même façon que le gouvernement a défini la nouvelle canadienne pour distribuer leur argent public. Donc, ça veut dire, mais il ne va pas bloquer la nouvelle américaine. Mm-hmm. Donc, ça va changer tout.
Moi, je me demande deux choses. En fait, moi, je pense que, honnêtement, parce qu'on est à détour, on parle des nouvelles en français, je pense que ça va affecter beaucoup plus les médias. Ça, c'est ma théorie, hein, mais je pense que ça va affecter beaucoup plus, si ça se passe, les médias canadiens anglophones
mm-hmm.
que les médias francophones. Parce oui. que si on n'a pas accès à ce qui se passe ici, mais qu'on a accès aux sites américains, les anglophones vont juste aller sur Washington Post, CNN, New York Times. Mais au Québec, je pense que les gens sont plus susceptibles d'aller prendre le temps de dire « OK, lapresse.ca, ledevoir.com, radiocanada.ca » puis aller directement sur les sites web, tandis que les Canadiens anglophones vont plus juste aller vers les sites américains plus rapidement. On va voir, là.
Mm-hmm.
Mais moi, ma théorie, c'est que c'est ça qui va se passer. Et d'ailleurs, quand tu disais ça prendrait un truc public, là, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, là, mais il y avait, dans une certaine époque, la Toile du Québec. Toiledu-Québec.qc.ca, qui était comme l'ancêtre de Google, justement pour les francophones. Et ce que tu proposes, ça me fait vraiment penser à ce truc-là qui a cessé d'exister depuis des années, mais on a eu notre Google québécois au début, fin des années 90, début des années 2000. Il y avait ça qui existait, donc à voir.
Ben, c'est dommage que ça n'existe plus. Bien noté.
Le 27 juin dernier, à Nanterre, en France, un policier tire à bout portant sur Naël, un adolescent français d'origine algérienne de 17 ans, lors d'un contrôle routier. Tout de suite, les policiers ont dit au public que c'est parce que l'adolescent les avait attaqués avec sa voiture qu'ils ont réagi comme ils l'ont fait. Et quelques heures après, la vidéo est sortie qui a démontré complètement autre chose.
Elle joue un rôle déterminant dans l'enquête. Ces vidéos amateurs montrent le contrôle de police hier matin à Nanterre. Les policiers sont sur le côté de la voiture à l'arrêt. L'un d'eux met en joue le conducteur à quelques centimètres de la vitre. Le véhicule redémarre et le policier tire. Pour sa famille, ces images montrent qu'il n'y avait pas de légitime défense.
On voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur le côté et non pas en face du véhicule.
Dans un premier rapport, il affirmait avoir fait feu pour stopper la voiture qui lui fonçait dessus.
Depuis, il y a eu des manifestations, bien sûr à Nanterre, mais maintenant un peu partout dans le pays, dans toutes les villes du pays, certaines dans lesquelles il y a beaucoup de casse, on s'en prend aux voitures, aux bâtiments. Et ce soulèvement-là, en France, crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Et les comparaisons avec le soulèvement aux États-Unis suite à la mort de George Floyd fusent. Et je voulais en parler avec toi, Nora, parce que d'abord, je pense qu'au Québec, on suit ça d'assez près. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires qui sont publiés sur ce qui se passe en France. Les gens essaient de voir est-ce que ça peut venir ici, est-ce que ça peut pas venir ici. Est-ce que tu as suivi beaucoup cette histoire-là?
Oui, j'ai mentionné ça dans mon podcast quotidienne.
Mm-hmm.
Et c'est sûr que c'est impossible de manquer. Si tu suis du monde de France sur les réseaux sociaux, ça joue là.
Ouais.
Je pense qu'un des commentaires que j'ai mais le plus, c'était une image du feu, la chaos et le pied de la Tour Eiffel avec un commentaire « Ça, c'est pas la France », avec les répliques « Il n'y a pas plus que France que cette image-là. » Ça, c'est vraiment la France. Donc, moi aussi, je me demande comment
c'est
est-ce
drôle,
que ça va...
C'est drôle, mais c'est drôle.
Mais c'est ça. Moi aussi, je me demande est-ce que ça va avoir un impact sur qu'est-ce qui se passe ici, au Québec. Je pense qu'il n'y aura aucun impact sur qu'est-ce qui se passe au Canada. Rappelons que dans les dernières deux semaines, il y avait quelqu'un qui était tué par un policier dans une salle d'urgence, dans un hôpital à Colombie-Britannique. Et ça ne faisait pas les manchettes dans le reste du Canada. Ça, c'était vraiment comme une nouvelle locale. Mais ça se peut que ça ne provoque pas non plus quelque chose au Québec. Si je pense aux manifs après la mort de George Floyd à Québec, il y avait spontanément 5000 personnes. Donc, je pense que dans le système de police, le système de l'ordre public, on est plus orienté vers les États-Unis qu'on peut peut-être admettre que dans France. Et j'ai pas vu la même sorte d'organisation en réaction de qu'est-ce qui se passe en France.
C'est vraiment intéressant pour ça, hein, parce que des fois, souvent les gens sont dit non, on est une société française, si, ça, en Amérique du Nord, blabla. Mais en fait, effectivement, là, quand ça pète aux États-Unis, ça va monter beaucoup plus vite à Montréal. Quand ça pète en France, il y avait d'ailleurs, il y a quelques jours, à Montréal, bon, quelques personnes qui avaient dit sur les médias sociaux qu'ils voulaient faire une manifestation dans l'est de Montréal, un peu en écho avec ce qui se passe en France. Tout de suite, le SPVM s'est mis en alerte. Il y a eu une présence policière extrêmement forte. Puis finalement, ça a été très tranquille. Tandis que quand ça, effectivement, l'été 2020, lorsqu'il y avait des choses aux États-Unis, ça montait plus clairement ici. Une autre différence fondamentale, on peut entendre Rokhaya Diallo qui dénonçait essentiellement ceci.
Des jeunes qui, majoritairement, sont des jeunes qui ne sont pas blancs, sont surexposés aux violences policières dès leur plus jeune âge. Donc je pense que c'est quand même le seul pays où on ne parle pas de la dimension raciale de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la France. Depuis
aux États-Unis, effectivement, beaucoup de comparaisons sont faites avec la mort de George Floyd.
Voilà, j'ai fait des interviews pour des chaînes, des médias espagnols, australiens, allemands, effectivement américains. Partout, on parle de cette dimension raciste des interventions policières. Il n'y a qu'en France où on parle de tout sauf du sujet. La France est un pays qui est structurellement raciste, qui a été dénoncé par les Nations Unies.
Structurellement raciste,
c'est scandaleux de dire ça.
La France structurellement raciste, on ne serait pas là, Lydia. La France n'est pas structurellement raciste, la police n'est pas raciste, il peut y avoir des individus, il n'y a pas de racisme en France.
Ce qui est très particulier avec la France, c'est ça, c'est cette question de vocabulaire-là, ce tabou-là. Donc, clairement, on a un jeune d'origine maghrébine qui se fait abattre comme ça. Les banlieues, c'est beaucoup des immigrants ou des personnes originaires du Maghreb ou des autres pays d'Afrique. Un peu les Antilles, c'est essentiellement la France black et beurre. C'est impossible, donc, de nommer cette question-là dans les dynamiques politiques françaises où on fait semblant que la race n'existe pas. Donc, on utilise toutes sortes de vocabulaire. On parle des banlieues, on parle de l'immigration, on parle de ça comme d'un enjeu d'immigration, oui. Alors que la plupart des personnes impliquées sont des personnes qui sont nées en France. On dit que ces gens-là ne font pas vraiment partie de la France. Donc, c'est vraiment le vocabulaire de la citoyenneté qui est employée. On fait semblant que la race n'a rien à voir avec ça.
C'est particulier et je pense que c'est important de rappeler que nous, on a nos propres façons de faire ce débat. Même si on utilisait les mots, on évite de parler des vraies affaires quand on parle de racisme au Québec. Mmh. Tu sais. Donc, la France, ça n'existe pas. C'est tout des mots cachés et on ne peut pas parler publiquement de la racisme. Mais au Québec, on parle de racisme, mais c'est un débat qui est... C'est vraiment un faux débat si c'est dirigé par François Legault ou dans les médias.
C'est comme on parle de racisme, on change la définition de ce que ça veut dire.
C'est ça.
D'ailleurs, en terminant... J'ai quand même mentionné qu'il y a un rapport qui vient d'être publié, en fait, qui avait été commandé par le SPVM, qui vient d'être publié parce qu'un autre cas qui va se rendre probablement jusqu'en Cour suprême, là, c'est la question d'un moratoire sur les interpellations sans motif. Donc, essentiellement pour que d'ici à ce que le cas soit réglé en cours, ce qu'on demande, c'est que ça soit plus possible pour la police d'arrêter les automobilistes sans raison, pour faire des contrôles. Et c'est une des pratiques qui mène au plus de profilage racial. Et c'est d'ailleurs ce cas-là très similaire à ce qui s'est passé avec Naël en France. Donc, on demande un moratoire là-dessus. Le chef de la police, Fadi Daguerre, refuse cette recommandation-là et parle plutôt qu'il voudrait recruter plus de policiers des minorités visibles, alors que ça n'a strictement rien à voir. Donc, il y a quand même ce débat-là qui est présent aussi en ce moment au Québec sur la manière dont, oui ou non, on accepte que les pratiques discriminatoires et racistes dans la police existe. C'est un peu comme tu disais, dans les faits, maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, on va utiliser le mot racisme, mais on continue à justifier les pratiques qui mènent au plus de violence ou de danger ou de discrimination envers les populations racisées, là.
Mm-hmm. Et c'est pas surprenant que le chef de police il veut continuer ses pratiques, mais ce que je trouve drôle, c'est dans le reste du Canada, les services de police sont un peu plus sophistiqués. Ils utilisent plus les mots de l'antiracisme dans comment ils parlent de leurs pratiques.
Non, en France, il n'y a pas ça du tout. Là. Les gens s'assument carrément dans leur rôle. Il n'y a pas une volonté d'essayer de faire semblant d'eux là-bas.
Non, tout à fait. Mais c'est sûr que hors Montréal, où on voit les services de police qui sont presque 100% blancs et qui continuent de maintenir le système de racisme systémique, ce qu'on a toujours à la tête de nos provinces, c'est quelqu'un qui nie l'existence de le racisme systémique de tout. Donc, c'est sûr que jusqu'au moment où ils sont forcés d'admettre que ça existe et que ça existe, mais eux, ils empirent la situation avec leurs pratiques. Je pense que les services de police dans la province vont continuer de faire le plus agressif qu'ils peuvent. Sans être en trop difficulté envers l'État ou envers la population, la société en général. Mais quand j'ai dit déjà, je pense pas que ce qui se passe en France, ça va vraiment changer les pratiques de nos policiers à nous, parce que c'est lié vraiment avec la culture spécifique de la province.
Alors, on espère que les chroniqueurs qui maintenant ont essayé dans la dernière semaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont écrit sur ce qui se passe en France en disant « ça s'en vient ici, la cassure sociale, faites attention, c'est ça qui arrive avec l'immigration massive, blablabla. » En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que non, pas tant que ça.
Non, et rappelons que le pays où le plus des immigrants vient au Québec, c'est la France.
C'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Nora, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand. Je ne sais pas si CanadaLand a déjà son call threads. On va leur demander. Et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com pour me partager vos impressions, vos commentaires, vos questions. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Nora?
Ben, pour l'instant, sur Twitter. C'est No Lore, mais aussi sandyandnora.com pour le podcast quotidien en anglais, The Daily News.
Nice, The Daily News.
C'est ça.
Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour à chaque deux semaines sur notre propre fil. Oui, nous sommes maintenant à chaque deux semaines. Donc, tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. On vous donne plus d'épisodes que jamais. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, peu importe lesquels, parlez-en à vos proches.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.